France Musique. Musicopolis. Paris, fin novembre 1831. Il est souvent difficile d'imaginer la destinée d'une œuvre à l'accueil qui lui est fait pour sa création. Prenez par exemple le premier grand opéra français de Meyerbeer, Robert le Diable. Un succès absolument phénoménal à l'Académie royale de musique en novembre 1831, qui a assuré au directeur, le docteur Véron, des recettes colossales. Eh bien aujourd'hui, on n'en entend plus jamais parler, et si vous cherchez un enregistrement intégral, je vous souhaite bon courage. Alors pour la bande-son de notre émission, pour vous spécialement, Musicopolis est allé chercher la plus récente apparition de l'œuvre à l'Opéra de Paris en 1985, avec une belle affiche de chanteurs. Et pour les commentaires de la création, nous irons à la source, dans la presse de l'époque. Pour commencer notre revue de presse sur Robert le Diable de Meyerbeer, il me semble qu'on peut ouvrir le temps du 22 novembre 1831, qui, dans un unique paragraphe, nous donne un résumé circonstancié de ce que nous trouverons plus développé les jours suivants. Je vous le cite. « Un succès immense a couronné ce soir la première représentation de Robert le Diable, l'un des plus beaux opéras qui est paru sur la scène de l'Académie royale de musique. » Un sujet heureux, où l'intérêt se soutient jusqu'au bout. Une musique sublime qui place M. Meyerbeer au rang des plus illustres compositeurs dont s'honore l'Allemagne. Un spectacle magnifique, la beauté des décorations, la richesse et la vérité des costumes, les prestiges de la mise en scène et de la danse ont décidé un succès depuis longtemps sans exemple. La plupart des commentateurs de la création de Robert le Diable insistent sur le fait que Meyerbeer, le talentueux compositeur, a totalement transformé son style pour s'adapter au goût français et à la qualité attendue par le public sur la scène de l'opéra. Ce musicien, venu des bords de l'Achepree, entendez par là de Berlin, a su se ployer aux exigences de vérité dramatique du public parisien, alors même que jusque-là, il s'était spécialisé dans l'opéra italien. La création de Robert le Diable, qu'on va bientôt appeler Robert tout court, a été annoncé depuis longtemps. Et c'est un tel événement que tout ce qui devait avoir lieu le soir du 21 novembre 1831 à Paris en matière de bals ou d'assemblées diverses a été remis. Le tout Paris est là, mondain bien sûr, mais aussi politique. Pas seulement français, mais européen. On dit qu'une conférence diplomatique a pu traiter d'intérêts internationaux dans une loge des premières à gauche entre les colonnes. Selon Le Figaro, le foyer était encombré de députés, de nouveaux pairs, de faiseurs d'affaires politiques. Un instant, on y a compté jusqu'à 4 ministres. Et cerise sur le gâteau, non seulement le spectacle a lieu sur la scène, mais aussi dans la salle, qui, dit-on, offrait un aspect admirable. Depuis longtemps, on avait vu à l'opéra autant de toilettes et de jolies femmes. Le succès de Robert le Diable de Meyerbeer a été assuré dès le premier soir. Et pourtant, la représentation ne s'est pas déroulée exactement comme prévu. Trois accidents sont venus troubler la bonne marche des événements. D'abord, un portant de quinquet, c'est-à-dire de lampe à huile, est tombé sur la scène et a couvert le plancher d'huile, de verre brisé et de boîtes de fer blanc. Mademoiselle Dorus, qui incarne le personnage d'Alice, la jeune fille, sœur de lait de Robert, a bien failli être écrasée. Ensuite, c'est un décor de nuages qui s'élevait au troisième acte, dont les fils ont cassé. Cette fois-ci, c'est Mademoiselle Taglioni, la danseuse, une des stars de son époque, qui a été menacée. Heureusement, allongée à ce moment-là, elle a vu le nuage se détacher et elle a pu se sauver à temps. Pour le dernier accident, c'est l'interprète de Robert, Adolphe Nourry, qui est tombé dans la trappe qui venait d'engloutir le diable au cinquième acte. Mais sans conséquence, heureusement. On a dû tout de même ajourner la deuxième représentation pour le saigner. Thank you. il est bien certain qu'une grande partie du succès de Robert le Diable est due au décor et à la mise en scène qui ajoute encore à la musique de Meyerbeer. Même si bien sûr, certains éléments sont discutés âprement dans la presse. C'est le cas du cœur de démon du troisième acte. Bertram, personnage qui incarne le diable, qui est le père de Robert, Robert, lui, est beaucoup moins diabolique, Bertram, donc, invoque le roi des anges déchu, son souverain, et la joie infernale des anges qui se livrent ensemble pour oublier leurs maux à d'horribles ébats. Le cœur répond de la coulisse. Pour les faire mieux entendre et pour ajouter au caractère infernal de leur valse, Meyerbeer a imaginé de faire chanter les choristes dans un porte-voix en carton. Un effet qui ne passe pas très bien à l'enregistrement. C'est évidemment la limite des micros. Vous devrez pallier ce léger défaut par votre imagination. Il est là qui m'attend. Oui, j'entends les éclats de la joie infernale. Ils se livrent ensemble pour oublier leurs maux à d'horribles journaliste de La Quotidienne du 25 novembre 1831 regrette que Meyerbeer ait été chercher des effets dans des moyens mécaniques tout à fait en dehors de l'art. L'orgue, qu'on entendra au cinquième acte, et les porte-voix ne sont pas encore des instruments admis dans nos orchestres. Aussi sans doute, nous répondra-t-il que c'est pour cela qu'il les a placés dans la coulisse. Au reste, concède le chroniqueur, nous pouvons lui pardonner ce petit charlatanisme musical en faveur des beautés de bon aloi répandues dans sa partition. François-Joseph Fétis, qui signe sa deuxième chronique sur Robert le Diable dans Le Temps du 25 novembre 1831, écrit « Un des plus beaux morceaux de la partition, un des plus dramatiques, est sans contredit le duo d'Alice et de Bertram, La force m'abandonne. » La conception de ce duo est absolument neuve. Il y a quelque chose de solennel et en même temps de diabolique dans le trait de violoncelle qui accompagne les questions que le damné adresse à la jeune fille, qui contraste à merveille avec le ton des réponses de celle-ci. Levasseur, qui chante Bertram, a bien compris ce morceau. L'accent sardonique qu'il donne à sa voix et le jeu de sa physionomie y ajoutent beaucoup d'effets. Dans ce duo, dans le trio qui le suit, l'intérêt est excité sans relâche par la musique, plus encore que par la situation indiquée par les auteurs des paroles, Scribe et Delavigne. Il y a peu d'exemples d'une succession d'émotions aussi vives, soutenues sans interruption pendant plusieurs scènes longues et développées. Commentateurs ont particulièrement remarqué le troisième des cinq actes de Robert le Diable. Tout est réuni pour en faire un moment unique, et on relève en particulier l'aspect visuel. Le journal des débats nous dit « Tous les décors sont beaux, celui du troisième acte est magique, le clair de lune est rendu avec une vérité inouïe. » C'est en effet au clair de lune que se déroule la deuxième partie de l'acte, dans le cimetière d'un couvent où Bertram ressuscite pour un moment les nonnes ensevelies qui se livrent alors à une bacchanale pour séduire Robert et l'entraîner vers le côté noir de la force. Après un quatrième acte qui permet de reprendre son souffle, le cinquième est éblouissant, dixit encore le journal des débats. Pour le décor, on remarque notamment un diorama, un effet à la daguerre. Pour la musique, après un troisième acte déjà d'une grande puissance, c'est le point le plus fort du crescendo entamé au début de l'ouvrage. Dans le cinquième, affirme la Gazette de France, tout cède, tout est effacé, tout est écrasé par la beauté du trio entre Levasseur, Nourri et Mademoiselle Dorus. C'est le triomphe de l'expression, du pathétique et de la plus haute intelligence musicale. « à la fin de son article du Temps, Fétis ne trouve plus ses mots. Après tant de belles choses que j'ai signalées, écrit-il, il me reste à parler du cinquième acte, le plus beau de l'ouvrage sous le caractère musical. Il décrit donc la scène d'introduction avec chœur de moine du plus beau caractère, puis une scène vive et pénétrante dans laquelle l'orgue se joint à l'orchestre. Enfin, ajoute-t-il, vient le trio qu'on peut appeler le bouquet de l'opéra. L'âme du compositeur s'est élevée jusqu'au sublime dans cet admirable morceau, chef-d'œuvre d'expression et de sentiment. Ce trio est encore une de ces beautés qui sont au-dessus de l'analyse et qui ne peuvent qu'être senties. Il conclut : un tel ouvrage suffit pour assurer à un artiste une renommée impérissable. Le final du cinquième acte de Robert le Diable de Meyerbeer, avec Samuel Ramey en Bertram, Michel Lagrange en Alice, Alain Vanzo en Robert, les chœurs et orchestres du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigés par Thomas Fulton. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis, où vous trouverez des tas de détails que vous a concocté Max Dosholm, puisque c'est lui en effet qui a assuré les recherches et la tenue du site. Nous avons également Julien Bourdet pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.